Et si on se laissait transporter par une histoire courageuse? Dans l'épisode précédent, le procès de Rémi doit se poursuivre devant la cour des assises. Mathia et Bob profitent du transfert de leur camarade vers la prison du comté pour aider Rémi à s'échapper. Il est accompagné d'un policier à bord d'un train. Sous les instructions préalablement envoyées par Bob et Mathia grâce à un souffle de sarbacane, Rémi se sauve de son wagon en sautant en chemin en rase campagne. Récupéré par ses compagnons de route, il se dirige vers le port de Littlehampton. De là, le frère de Bob, commandant de navire, prendra Rémi, Mathia et Capi à son bord pour les faire rentrer en France. Retrouve les épisodes de Sans Famille ainsi que d'autres histoires sur ilétaitunroman.com. Allez, c'est parti! Chapitre 21, le signe. Après le départ du frère de Bob, le navire resta silencieux pendant quelque temps. Puis, peu à peu, il s'anima. Des pas retentirent sur le pont. On laissa tomber des cordages. Des poulies grincèrent. Une voile fut hissée, le gouvernail gémit, et tout à coup, le bateau se mit à tanguer. Nous étions en route. J'étais sauvé. Lent et doux tout d'abord, ce mouvement de balancement ne tarda pas à devenir rapide et fort. Brusquement, de violents coups de mer venaient frapper le côté droit du bateau. Je me sentis désolé pour le pauvre Mathia qui s'apprêtait de nouveau à être malade en mer. En me prenant la main, il me dit « Cela ne fait rien, Rémi. Tu es sauvé. » À ce moment, le frère de Bob ouvrit la porte de notre cabine. « Si vous voulez monter sur le pont, il n'y a plus de danger. »«
Où est-on le moins malade ?»
demanda Mathia. « Couché. » »«
Je vous remercie. Je reste couché. »
Et Mathia s'allongea par terre. Je voulus rester près de lui, mais il m'envoya sur le pont en me répétant
« Cela ne fait rien, Rémi, tu es sauvé. Je n'aurais jamais cru qu'avoir le mal de mer me ferait plaisir. »
Arrivé sur le pont, je dus me tenir debout en me cramponnant solidement à un cordage. Notre navire s'élevait légèrement, bondissant sur les vagues, poussé par le vent d'ouest. Je me retournais en direction de la terre. Les lumières du port n'étaient plus que des points dans l'obscurité. En les regardant disparaître, je dis adieu à l'Angleterre avec un doux sentiment de délivrance. Le capitaine me dit « Si le vent continue ainsi, nous arriverons ce soir à Isigny. »
Toute une journée de mer, le pauvre Mathia.
Je passais mon temps à aller du pont à la cabine et de la cabine au pont. À un moment, alors que je discutais avec le capitaine, celui-ci étendit sa main en direction d'une colonne blanche qui s'érigeait par-dessus le ciel.
« Barfleur, » me dit le capitaine. Je dégringolai rapidement pour porter cette bonne nouvelle à Mathia. Nous étions aux abords de la France. Nous finîmes de parcourir une assez longue distance jusqu'à Isigny, où nous accostions.
Comme il était tard, le capitaine nous laissa dormir à bord. Le lendemain matin, nous le remerciâmes chaleureusement avant de lui dire au revoir. Nous débarquions en France avec pour seules affaires nos vêtements
et nos instruments. Mathia avait eu soin de prendre ma harpe que j'avais laissée dans la tente de Bob la nuit où je m'étais rendue à l'auberge du Gros Chêne. Quant à nos sacs, ils étaient restés avec leur contenu dans les voitures de la famille Driscoll. Cela nous mettait dans l'embarras car nous ne pouvions reprendre notre vie errante sans chemise ni pantalon et surtout sans carte. Par bonheur, Mathia avait 12 francs d'économie. Nous disposions également de l'argent gagné lors de notre représentation avec Bob, soit l'équivalent de 27 francs. Avec tout cet argent en poche, nous étions à la tête d'une petite fortune de 40 francs, ce qui était considérable pour nous. Mathia avait voulu donner cet argent à Bob pour couvrir les frais de mon évasion, mais Bob avait refusé, prétextant qu'on ne se fait pas payer les services qu'on rend par amitié, et il n'avait rien voulu recevoir. Notre première occupation, dès notre arrivée, fut de chercher un vieux sac de soldat et d'acheter ensuite deux chemises, deux pantalons, du savon, un peigne, du fil, des boutons, des aiguilles et enfin et surtout une carte de France. En effet, où aller maintenant que nous étions en France? Quelle route suivre? Comment nous diriger? Mathia me dit « Je n'ai pas de préférence et je suis prêt à aller à droite ou à gauche. Je ne demande qu'une chose. » « Laquelle ?»« Suivre le cours d'un fleuve, d'une rivière ou d'un canal. Parce que j'ai une idée. » Comme je ne demandais pas à Mathia où il voulait en venir, il continua. « Je vois qu'il faut que je te l'explique, mon idée. Quand Arthur était malade, Madame Milligan le promenait en bateau, et c'est de cette façon que tu l'as rencontré sur le cygne. Mathia, Arthur n'est plus malade. Rémi, même s'il va mieux, il a été très malade. Ce sont les soins de sa mère qui l'ont sauvé. Alors, je crois que pour le guérir complètement, Madame Milligan le promène encore en bateau sur les rivières de France. En suivant ces cours d'eau, nous avons une chance de rencontrer le cygne. Qui dit que le cygne est en France? Rien, tu as raison, Rémi. Cependant, comme le cygne ne peut pas aller sur la mer, alors il n'a probablement pas quitté la France. Nous avons des chances de le trouver. N'es-tu pas d'avis de tenter ne serait-ce qu'une chance? Rémi, je veux que nous retrouvions Madame Milligan. Et je crois que nous devrions essayer. Mais Mathia, que fais-tu de Lise, Alexis, Benjamin et Étiennette? Rémi, nous les verrons en cherchant Madame Milligan. Rejoignons le cours d'un fleuve ou d'un canal et cherchons sur ta carte celui ou celle qui est le plus près. Nous nous exécutâmes et trouvâmes que le fleuve le plus proche était la Seine. Mathia s'exclama. Eh bien, gagnons la Seine, Rémi. Mais Mathia, la Seine passe à Paris. Qu'est-ce que cela peut faire? Beaucoup d'ennuis, Mathia. Vitalis m'avait appris que lorsque la police voulait trouver quelqu'un, c'était à Paris qu'on le cherchait. Si les Anglais me recherchent pour le vol de l'église Saint-Georges, je ne veux pas qu'elle me retrouve. À quoi aurait-il servi de quitter l'Angleterre? La police anglaise peut donc te poursuivre en France? Je ne sais pas, Mathia, mais si cela est le cas, il ne faut pas aller à Paris. Rémi, si on suivait la Seine jusqu'aux abords de Paris, puis on la quitterait pour la reprendre plus loin. Tu sais, je ne tiens pas non plus à voir Garofoli. C'est une bonne idée, Mathia. Eh bien, Rémi, faisons ainsi. Nous interrogerons les mariniers le long de la rivière. Et comme le cygne, avec sa véranda, ne ressemble à aucun autre bateau, s'il est passé sur la Seine, on l'aura forcément remarqué. Si nous ne trouvons pas le cygne sur la Seine, nous le chercherons sur la Loire, sur la Garonne, sur toutes les rivières de France. et nous finirons bien par le trouver. » Je n'eus aucune objection à déclarer et il fut décidé que nous gagnerions le cours de la Seine. Après avoir pensé à nous, il était temps de nous occuper de Capi. Teint en jaune, pour moi, Capi n'était pas Capi. Nous achetâmes du savon et à la première rivière croisée sur notre chemin, nous le frottâmes vigoureusement. Mais la teinture de notre ami Bob était d'excellente qualité. Il nous fallut de nombreuses baignades, de longs savonnages, mais surtout des semaines et des mois pour que Capi recouvre sa couleur native. Nous traversâmes la Normandie de ville en ville jusqu'à gagner la Seine par le village de la Bouille. Quand après une journée de marche, et du haut de collines boisées, Mathia aperçut tout à coup devant lui la Seine. Il fut subjugué par les eaux calmes et puissantes, couvertes de navires aux voiles blanches et de bateaux à vapeur, et il déclara que cette vue le réconciliait avec l'eau. Il comprenait qu'on pouvait prendre plaisir à glisser sur cette rivière au milieu des paysages verdoyants. Alors, il me dit « Rémi, sois certain que c'est sur la Seine que Madame Milligan a promené son fils malade. Mathia, c'est ce que nous allons bientôt savoir. Il nous faut faire causer les gens du village. » Mais j'ignorais qu'il n'était pas facile d'interroger les Normands. Il répondait souvent en posant d'autres questions. Quand nous eûmes bien répondu à toutes les questions qu'on nous posa, il fut à peu près certain que le cygne n'était jamais venu à la Bouille, ou bien personne ne l'avait vu. De la Bouille, nous allâmes à Rouen, où nos recherches recommencèrent, mais sans meilleur résultat. À Elbeuf, on ne put pas non plus nous parler du cygne. À Pose, où il y a des écluses et où par conséquent on remarque les bateaux qui passent, il en fut de même encore. Sans nous décourager, nous avancions, questionnant toujours, mais sans grande espérance, car le cygne n'avait pas pu partir d'un point intermédiaire. Puisque nous ne trouvions pas trace du passage de Madame Milligan et d'Arthur en Normandie, nous devions aller jusqu'à Paris, ou plutôt au-delà de Paris. Nous ne marchions pas seulement pour avancer, il nous fallait encore gagner chaque jour notre pain. Aussi, 5 semaines furent nécessaires pour aller d'Issigny à Charenton. Là, pour la première fois, on répondit à nos demandes qu'on avait vu un bateau qui ressemblait au cygne. C'était un bateau de plaisance, il avait une véranda. Mathia fut si joyeux qu'il se mit à danser sur le quai et prenant son violon, il joua frénétiquement une marche triomphale. Pendant ce temps, je continuais d'interroger le marinier qui avait bien voulu nous répondre. Le doute n'était pas possible, c'était bien le cygne. Il y avait environ 2 mois qu'il était passé à Charenton, remontant la Seine. 2 mois ! Cela lui donnait une terrible avance sur nous. Mais qu'importait ? En marchant, nous finirions par le rejoindre. L'information capitale et extraordinaire était que le cygne était retrouvé.
Qui a eu raison ?
Criait Mathia. Nous n'avions plus besoin de nous arrêter maintenant pour interroger les gens. Le cygne était devant nous. Il n'y avait qu'à suivre la Seine. Mais à Moret, la rivière du Loing se jette dans la Seine. Quelle direction avait pris le cygne ? Il fallut recommencer nos questions. Et l'on sut que le cygne avait remonté la Seine. À Montreux, il fallut les reprendre encore. Cette fois, le cygne avait abandonné la Seine pour Lyonne. Il y avait un peu plus de 2 mois qu'il avait quitté Montereau. À son bord, il comptait une dame anglaise et un jeune garçon étendu sur un lit. Nous nous rapprochions de Lise en même temps que nous suivions le cygne. Mon cœur battait fort lorsqu'en étudiant ma carte, je nous voyais nous diriger droit vers une intersection. Il faudrait déterminer une fois encore la nouvelle direction prise par Madame Milligan. Nous apprîmes que le cygne avait continué sa route en remontant Lyonne. Nous allions donc passer par Drezy et voir Lise. Elle-même pourrait nous parler de Madame Milligan et d'Arthur. Depuis que nous courions derrière le cygne, nous ne consacrions plus beaucoup de temps à nos représentations. Aussi, non seulement les recettes baissaient, mais nos 40 francs d'économie fondaient chaque jour. Mathia montrait son impatience à rejoindre le cygne et, loin de le contredire, je partageais pleinement son désir de nous dépêcher. Jamais le soir nous ne nous plaignions de la fatigue et nous étions toujours d'accord pour partir le lendemain de bonne heure. Pour faire des économies, nous avions réduit nos dépenses et, comme il faisait chaud, Mathia avait déclaré qu'il ne voulait plus manger de viande parce qu'en été, la viande est lourde à digérer. Nous nous contentions de partager un morceau de pain, un œuf dur ou un peu de beurre et nous ne buvions que de l'eau. Quelquefois, Mathia s'adonnait à des rêveries gourmandes. Il disait « Je voudrais bien rencontrer la cuisinière de Madame Milligan pour goûter à ses bonnes tartes aux confitures. Cela doit être drôlement bon, des tartes à l'abricot. Tu n'en as jamais mangé, Mathia ? J'ai mangé des chaussons aux pommes, mais je n'ai jamais mangé des tartes à l'abricot. Seulement, j'en ai vu. Quelles sont ces petites choses blanches collées sur la confiture jaune ? Des amandes. Oh ! Et Mathia ouvrait la bouche comme pour avaler une tarte entière. Au fur et à mesure de notre parcours, lorsque nous passions par une écluse, des nouvelles du cygne nous étaient données. Sur le canal du Nivernais, tout le monde avait remarqué le cygne qui ne ressemblait à aucun autre bateau. Non seulement on nous parlait du cygne, mais on nous parlait aussi de Madame Milligan, une gentille dame anglaise, et d'Arthur, un jeune garçon qui se tenait presque toujours recouché dans un lit placé à l'abri d'une véranda sur le pont, mais qui parfois se levait aussi. Arthur allait donc mieux. Nous approchions de Drezy. Encore 2 jours, encore quelques heures seulement. Enfin, nous apercevions les bois dans lesquels nous avions joué avec Lise à l'automne précédent et nous entrevoyons aussi l'écluse avec la maisonnette de la tante Catherine. Sans nous concerter, Mathia et moi avions forcé le pas. Nous ne marchions plus, nous courions. Capi, qui reconnut le lieu, prit les devants et s'élança au galop. Il voulut avertir Lise que nous arrivions. Et elle viendrait à nos devants. Pourtant, ce ne fut pas Lise que nous vîmes sortir de la maison, et Capi, lui, se mit à se sauver comme s'il se faisait chasser. Nous nous arrêtions net en nous demandant ce que tout ceci pouvait bien signifier. Nous reprîmes notre marche et, tout en nous approchant de la maison, nous découvrîmes un homme en train de manœuvrer une vanne de l'écluse. Ce n'était pas l'oncle de Lise. Nous nous dirigeâmes alors jusqu'à la maison. Une femme que nous ne connaissions pas allait et venait dans la cuisine. Nous demandâmes « Madame Suriot ?» Étonnée, elle mit un moment avant de nous répondre. Enfin, elle nous dit
« Elle n'est plus ici. »
« Et où est-elle ? »
en Égypte.
Nous nous regardions, Mathia et moi, médusés. En Égypte. Nous ne savions pas au juste où se trouvait ce pays, mais vaguement nous pensions que c'était loin, très loin même, quelque part au-delà des mers. Élise, vous connaissez Lise ?
Pardi, Lise est partie en bateau avec une dame anglaise.
Lise, sur le cygne, rêvions-nous ? La femme me demanda.
C'est vous, Rémi, n'est-ce pas ?
Oui.
Eh bien, mon petit, quand Suryu a été noyé...
Noyé ?
Noyé dans l'écluse, oui. Vous ne saviez pas que l'oncle de Lise était tombé à l'eau ? Il est passé sous une péniche, le pauvre. Pour lors, quand il s'est noyé, Catherine s'est trouvée bien embarrassée, bien qu'elle fût une femme forte. Mais que voulez-vous ? Quand l'argent manque, on ne peut pas le fabriquer du jour au lendemain. Et l'argent manquait. Catherine se vit offrir d'aller travailler en Égypte pour élever les enfants d'une dame dont elle avait été la nourrice. Mais ce qui la retenait, c'était sa nièce, la petite Lise. Alors qu'elle se demandait ce qu'il fallait faire, voilà qu'un soir s'arrête à l'écluse une dame anglaise qui promenait son garçon malade. On discute et la dame anglaise, qui cherchait un enfant pour jouer avec son fils, qui s'ennuyait tout seul sur son bateau, demande qu'on lui donne Lise, en promettant de se charger d'elle, de la faire guérir et enfin de lui assurer un avenir. C'était une brave dame, bien bonne et douce envers les plus faibles. Catherine accepte. Et tandis que Lise embarque sur le bateau de la dame anglaise, Catherine part pour s'en aller en Égypte. C'est mon mari qui remplace Suryu. Alors avant de partir, Lise, qui ne peut pas parler, quoique les médecins disent qu'elle parlera sans doute un jour, donc Lise veut que sa tante m'explique que je dois vous raconter tout cela si un jour vous veniez la voir. Et voilà.
J'étais si abasourdi que je ne pus prononcer un seul mot. Mathia, qui garda la tête froide, demanda. Et où la dame anglaise allait-elle ?
Dans le midi de la France ou bien en Suisse. Lise devait demander que quelqu'un m'écrive pour que je vous donne son adresse. Mais je n'ai pas reçu de lettre.
Les garçons ne s'attendaient pas à de telles nouvelles. Comment vont-ils parvenir à retrouver le cygne avec, à son bord, Madame Milligan, Arthur et Lise? La suite au prochain épisode. Si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à t'abonner à la newsletter sur elitetunroman.com. Merci pour ton écoute et à très vite.